Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Capi, la fréquence de la paix. Le 27 septembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale du tourisme. En marge de cette journée, les experts en tourisme en RTC relancent les débats sur la réforme du secteur du tourisme engagée en 2017, dont le texte a été examiné et voté en 2018 au Parlement. Ce texte cadre institutionnel du secteur du tourisme prévoit la liberté de création d'une unité touristique sur l'étendue du territoire national à toute personne physique ou morale qui remplit les conditions prévues par la loi. Et le même texte dispose que le tourisme est d'intérêt local. Le gouvernement définit la politique nationale du tourisme et la province la met en œuvre. Quel regard portez-vous sur ces dispositions? Toutes nos deux lignes sont disponibles pour vos interventions directes. 081 890 49 69 et 09 97 06 49 69. Vous pouvez également commenter les sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Alain Goy est à la mise en œuvre de ce magazine, réalisé et coordonné par J.R. Lungembo. Piero et Lamiji a le réel plaisir de vous le présenter. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parité, autonomisation, violence basée sur le genre, la vie en famille, les valeurs familiales et toutes les questions liées au développement de l'homme et de la femme, c'est dans Parité et Famille. Votre émission vous apprend également comment vivre une vie harmonieuse en famille et vous propose des astuces pour gérer les problèmes des couples, relever les défis de l'éducation des enfants et le bien-être familial. Parité et Famille, votre émission qui traite des rapports hommes et femmes dans la société. Tous les mercredis à partir de 9h15 et 20h30, aussi le vendredi à 13h30.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et pour en parler, nous avons associé à cet échange Monsieur Kingombe Tiali Jean. Monsieur Kingombe, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour et la maison.
Vous êtes directeur chef des services des promotions des investissements touristiques au secrétariat général du tourisme. Et nous évoquons les innovations dans le secteur touristique. Quelles sont les grandes lignes aujourd'hui des mesures prises par les gouvernements pour améliorer le secteur touristique en grande ligne?
Et en grande ligne, il faut avouer que le gouvernement a vu être adopté et promulgué la loi portant principe relatif au secteur du tourisme, c'est dans le cadre législatif, mais également dans le cadre réglementaire. Il y a eu la rationalisation des cadres et des structures de l'administration publique, et du point de vue technique, il y a eu le projet de la numérisation dans le secteur. C'est en gros là ce qu'on peut considérer comme les grands axes qui ont été développés dans ce secteur.
Mais est-ce que le fait qu'on ait eu ces axes d'amélioration, quelles sont alors les faiblesses qui ont aujourd'hui entouré notre industrie touristique à un certain moment?
En fait, l'industrie touristique a été entourée de problèmes on dirait organisationnel, mais également de vision et infrastructurelle. Donc, du point de vue organisationnel, je parle ici du cadre légal. On n'avait pas un cadre légal qui reprenait les différents actes et qui mettait tous ces actes-là dans une loi. C'est ce qu'on a pu avoir. Mais du point de vue infrastructurel, je veux dire, ce sont les infrastructures de base, qui facilite effectivement le tourisme. Ce problème demeure et il va s'améliorer progressivement. Nous devons également avouer que il y a un problème général, hein, celui des ressources humaines, c'est-à-dire le renforcement des capacités des ressources humaines, tant des administrations, mais également du secteur opérationnel.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il quand même un engouement, on peut dire ainsi, de gens qui s'intéressent à l'industrie touristique de la RDC, que ce soit en termes de fréquentation, mais aussi en termes de projets d'investissement dans les secteurs?
Bon, au fait, il y a une sorte d'engouement, en fait, qui fait observer du point de vue, on dirait, visuel, hein, un nombre élevé de constructions, d'établissements d'hébergement et de restauration, mais également l'intérêt que l'on porte à la gestion des sites touristiques. De ce côté-là, il y a eu effectivement un engouement et on a vu effectivement des infrastructures d'hébergement de haut niveau qui ont été initiées, soit par les nationaux, soit en partenariat avec d'autres investisseurs. Nous pensons que dans les conditions actuelles, c'est quelque chose à apprécier parce que ça a donné un plus dans le secteur. Et heureusement que il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, le cadre légal et essentiellement le projet de numérisation et de la réforme de l'administration qui ont ajouté un plus au secteur.
Mais on sait que l'industrie touristique aujourd'hui, sur les plans organisationnels, nous avons l'Organisation nationale du tourisme, le secrétariat général. Des fois, il arrive que les gens aient assez de confusion pour qu'ils sachent exactement à qui on doit s'adresser en cas de quoi. Mais est-ce qu'on peut avoir en liminaire aussi le rôle de l'ONT, du secrétariat général, pour permettre aux auditeurs de savoir si, par exemple, on a besoin de tels renseignements sur les secteurs touristiques, voilà à qui on peut s'adresser? Est-ce que c'est là pour permettre quand même aux gens de savoir comment s'orienter les uns et les autres?
Effectivement, le secteur du tourisme en République démocratique du Congo est ainsi organisé. Nous avons le ministère qui, au nom du gouvernement, organise, développe et donne les grandes orientations dans le secteur. Alors, le ministère lui-même a, on dirait, une administration, qui est le secrétariat général, qui s'occupe de toutes les questions des normes et des contrôles. Alors, en plus de l'administration qui est appelée ici le secrétariat général au tourisme, nous avons les opérateurs du secteur. Nous avons des opérateurs étatiques, c'est-à-dire l'Office national du tourisme, chargé essentiellement du marketing et de la promotion par toutes les voies appropriées. Mais nous avons également un autre opérateur étatique, c'est l'Institut congolais pour la conservation de la nature, dans la mesure où la gestion du secteur des activités du tourisme dans les aires protégées relève maintenant du ministère du tourisme. Ça, c'est du point de vue opérateur étatique. Mais également, nous avons le côté privé, qui, les privés s'organisent dans des corporations. Hein, vous avez par exemple au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, vous avez Oreca, hein, qui s'occupe des hôtels et des restaurants. Mais également au sein d'autres organisations, d'autres corporations, il y a des regroupements autour de l'hôtellerie et de la restauration, que ce soit au niveau des Copemeco, etc. Et puis, donc, dans le secteur privé, vous pouvez également parler des associations qui agissent dans le secteur du tourisme. Voilà en gros comment on le fait. Donc, les normes, le contrôle, l'inspection relève de l'administration du tourisme, le secrétariat général, le marketing et la promotion à l'Office national du tourisme, mais également le tourisme dans les aires protégées à partir de l'ICCN et dans le secteur privé, nous avons les différentes corporations, Oreca, ANAFCO, à travers la FEC ou la Copemeco et d'autres corporations.
Merci. On va revenir à vous, directeur Kingombe, le temps d'écouter les auditeurs qui sont intéressés par cet échange autour de l'industrie touristique de notre pays. Marie-Paul est à Kisangani ainsi que Pascal. On reste dans la même ville. Marie-Paul, merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute, Marie-Paul.
Oui, écoutez, monsieur le journaliste, la RDC, avec ses immenses potentialités, tant naturelles qu'artificielles, c'est un pays qui est en vocation touristique. C'est c'est un pays qui doit bel et bien répondre au tourisme pour essayer de faire avancer aussi les choses. Et cette assertion, c'est le journaliste, ne se justifie pas seulement par l'attractivité géographique de la RDC, même pas par ses forêts du tout, mais aussi parce que il y a une reconfiguration du monde autour de ces pays, autour de la RDC. Voilà pourquoi il y a lieu de capitaliser ces secteurs. Mais l'étalon d'achat, c'est le journalisme. L'étalon d'achat dans les secteurs du tourisme et de la RDC, c'est cette récurrence des guerres. Cette façon, l'insécurité qui a élu le domicile dans ces pays. Et, empêche que les touristes puissent fréquenter régulièrement les pays, puissent venir essayer, voir tout ce qu'on a comme des potentialités naturelles dans ces pays. C'est ce qui est comme une forme de discorde dans ces pays. Alors que lorsque nous perdons, parce que nous avons la guerre à élu domicile dans notre pays, nous perdons beaucoup. C'est un match gagné pour les pays. Pourquoi pas aussi pour le développement de ces pays. Parce que les secteurs touristiques, il y a des pays dans le monde qui ne vivent que du tourisme. Mais la RDC ne capitalise pas cet atout qui doit absolument remplir les caisses de l'État. Alors moi, je propose comme une solution, hormis les dispositions que les législateurs sont en train de mettre, notamment réduire les lois, mais l'État doit absolument sécuriser. Il faut d'abord qu'il y ait la sécurisation et la stabilité des institutions politiques du pays. Parce que s'il n'y a pas la stabilité, qu'il n'y a pas la sécurité, quand bien même qu'on peut prendre des belles lois, mais les touristes ne vont pas venir. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'à l'insécurité, ils peuvent perdre leur vie, ils peuvent être morts dans leur tourisme. Voilà pourquoi on doit d'abord assurer la sécurisation. On doit absolument stabiliser les institutions de l'État. Parce que si on ne les stabilise pas, on ne peut pas non plus espérer vraiment que les touristes peuvent venir. Et aussi, on doit aménager les secteurs. Vous voyez, si nous qui sommes presque à l'est là, vous voyez, nous avons les parcs. Nous avons les parcs avec l'Ouganda, avec d'autres pays de l'est là. Et nous avons aussi des lacs. Mais ce sont ces pays-là qui remplis les caisses par le tourisme et même les espèces qui étaient dans nos parcs, parce qu'il y a des crépitements des arbres et à tout moment ça tire. Ces espèces émergent, quittent les pays pour aller vers les pays voisins. Voilà, c'est un marque à gagner.
Pour vous, Marie-Paul, c'est important. La stabilité, mais la question de la sécurisation est très très importante pour permettre à ce que les gens aient confiance et qu'ils puissent fréquenter les sites touristiques dans notre pays. Merci beaucoup, Marie-Paul. On reste à Kisangani avec vous, Pascal. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour, monsieur Kounaresti.
On a vu votre analyse sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Vous êtes étudiant à l'école supérieure du tourisme. Quel est votre point de vue, Pascal?
Oui, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole, monsieur le journaliste. Je suis personnellement très content parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une émission qui concerne le tourisme. Alors que sous d'autres cieux, le tourisme constitue un axe principal de l'activité économique du pays. Mais pour notre pays, on dirait une nouvelle science. Et au monsieur, on ne tient pas compte de cela. Bon, j'ai lu la publication hier de la radio Capi par rapport au thème des paroles judiciaires. Ce que j'ai retenu là-bas, c'est deux choses. Et la première, c'est on parle dans cette publication de la réforme du secteur touristique. Donc, pour qu'il ait la réforme du secteur touristique, à mon humble avis, je pensais qu'il fallait d'abord revoir les infrastructures touristiques, comme mes prédécesseurs l'ont dit. Donc, quand on parle des infrastructures, je peux intégrer d'abord l'aspect de la voie de communication, la route. Donc, les sites touristiques qui sont actifs et ceux qui sont potentiels, on ne peut pas accéder, c'est pas moi par quel mécanisme. Donc, pour qu'il ait vraiment la réforme, il faut d'abord aménager sur les routes d'intérêt touristique. Et quand on prend toujours le même aspect des voies de transport, Donc, là, on voit aussi les moyens de transport. Dans d'autres pays, il existe des moyens de transport des touristes qui sont adéquats. Il y a les autocars, on prend la route. Il y a aussi les wagons, donc le transport ferroviaire. Voyez, donc, ce secteur-là n'est pas encore entrevu par les autorités, les pouvoirs publics. Si je parle par les on veut atteindre un site touristique qui paraît à la voie maritime. Il n'y a pas de bateaux de tourisme ici, de croisières. Il n'y en a pas. Donc, pour qu'il y ait la réforme, je vois qu'il fallait d'abord commencer par là. Bon, les quatre composantes touristiques. Il y a les transports dont je viens de parler. Il y a l'hébergement. Il y a la restauration. Il y a aussi l'animation. Et cette dernière composante est quasiment absente. Quand le touriste vient, il veut se diriger dans un site touristique. L'attraction primaire qui l'a fait venir dans cette destination est là. Après avoir visité, par exemple, Lokati. Mais le soir là-bas, il doit y avoir une activité qui va agrémenter son séjour. Mais ici en RDC, je ne vois pas encore des associations d'animation touristique qui sont encadrées de ce sens-là. Dans les débats, on a aussi parlé de, on a aussi dit que la réforme touristique, donc le tourisme doit avoir un intérêt sur le bien-être de la population locale. Oui, mais pour ça, il faut qu'il ait la formation des gestionnaires. Parce que si on ne forme pas les personnels, les gens qui vont gérer ce secteur, ils devront canaliser ça pour que cela ait un impact, les impacts socio-économiques sur la population locale. Vous allez voir les retours, les recettes qui devraient, n'est-ce pas, faire donc impacter positivement sur le social de la population locale. Il n'y en aura pas.
Donc, merci beaucoup, Pascal. Merci. Vous avez développé beaucoup d'éléments, Pascal, même sur notre page Facebook. Vous êtes étudiant à l'école supérieure de tourisme plutôt à l'université de Kisangani. Vous avez évoqué les quatre composantes majeures sur lesquelles on doit travailler, le transport, l'hébergement, la restauration, mais l'animation, mais sans oublier aussi le renforcement des capacités de ceux qui travaillent. Notre invité a évoqué tout à l'heure le besoin en ressources humaines pour vraiment consolider le programme du secteur touristique. Merci beaucoup, et Pascal Ignace. Vous êtes à Colossi. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, merci. Tout en faisant mienne l'intervention de notre prédécesseur en ce qui concerne les ressources humaines, je voudrais du moins revenir sur un aspect et souligner que sur toute l'étendue de notre pays, il y a une richesse énorme sur le plan touristique, c'est qu'il n'y a aucune province qui peut être oubliée dans ce contexte. Mais pour ne pas faire une réplique, je voudrais simplement rebondir sur l'aspect du tourisme minier, qui est aussi très très important et qu'on devra capitaliser, mais aussi le tourisme dans le cadre culturel. Vous savez que la RDC est une mosaïque de culture. Or, dans le cadre d'intégration nationale, j'aurais aimé que ce secteur soit aussi viabilisé. Mais je voudrais finir par rappeler que le tourisme reste pour nous un défi majeur, que ce soit sur le plan local et sur le plan national. Il faudrait encourager les initiatives privées, et décentraliser par rapport à la gestion le domaine du tourisme. Voilà un peu, en gros, ce que je voulais ajouter.
Merci beaucoup, Ignace. Vous avez insisté sur l'encouragement des initiatives privées, tout en les encadrant, bien sûr, par au niveau du pouvoir local. Et ça, c'est un défi majeur. On l'a même dit tout à l'heure quand on a parlé de la loi. Et vous estimez que c'est un défi qu'il faudrait aujourd'hui encourager les initiatives privées dans le secteur touristique. On vous écoute, Félicien. Vous êtes à Kinshasa et on va revenir à notre invité, directeur Kingombe pour Place Emo. Félicien, merci de nous avoir rejoint. Bonjour. Félicien, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, je suis en ligne. Bonjour, bonjour, Pierrot. Bonjour,
vous écoute. On vous écoute, oui.
Oui, je disais que mes prédécesseurs ont déjà tout dit. Je ne vois pas comment parler du tourisme dans un pays en guerre, et dans un pays où l'insécurité règne dans tous les coins. Il y a d'abord la pacification du pays qui doit être prioritaire, parce que aujourd'hui les touristes ne sont pas prêts d'aller en Afghanistan ou en Libye ou en Irak ou en Syrie. Donc les gens vont là où il y a la paix. Le pays lui-même, notre pays, sans même les infrastructures, c'est déjà un tourisme complet. Vous passez partout, même là où on n'a pas aménagé, mais vous trouvez beaucoup de sites touristiques. Mais le problème qui se pose chez nous, c'est cette insécurité. Et vous avez vu, vous avez entendu avant-hier un couple britannique qui a quitté l'Angola sans problème. Ils arrivent sur le marché chez nous à Boma et ils sont attaqués par des bandits et l'homme a perdu sa vie et la femme est restée seule. Tout ça, quand ça arrive en Occident, là où il y a des touristes qui viennent chez nous, ce ne sont pas des bonnes nouvelles qui peuvent attirer les touristes chez nous. Et puis, de deux, c'est les voies de communication. Comment quelqu'un peut venir voir l'embouchure du fleuve Congo? Comment il peut venir voir l'océan Atlantique à Mwanda? Par où il va passer? Parce que c'est pour atteindre Mwanda aujourd'hui, surtout sous la saison, pendant la saison de pluie, on ne sait même pas y arriver. Et c'est beaucoup comme ça. Comment on peut aller voir la forêt équatoriale avec tout ce qu'il y a comme merveille là-bas? Par quel moyen on peut y arriver? On avait des bateaux ici, des cocolos et tout ça. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Seulement, on ne peut voir qu'on a réparé, qu'on a dépensé autant d'argent, mais on n'a jamais vu ça naviguer. Et donc, nous avons du travail à faire avant d'aller penser aux lois qui doivent faire la réforme, ceci, cela. On dirait que notre dirigeant, c'est les gesticulations qui les intéressent. C'est l'agitation, c'est faire voir aux gens qui sont en train de travailler au lieu de travailler dans le silence et que les gens voient les résultats.
Merci.
Donc moi, je pense qu'il y a du travail à faire.
Merci beaucoup, Félicien, pour vous. C'est la priorité, c'est la pacification, mais aussi la construction des infrastructures. Notre invité l'a évoqué tout à l'heure. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine qui reçoit les directeurs Jean Kingombe Tchali, directeur chef des services des promotions des investissements touristiques au secrétariat général du tourisme. Vous pouvez aussi commenter les sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Leur quotidien, préoccupations et ambitions, c'est dans 100% jeunes. L'orientation scolaire et académique, l'entrepreneuriat et l'emploi, une émission des jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. Tous les vendredis à 9h15 et 20h30, le lundi à 13h30.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nous revenons à vous, directeur Jean Kingombe Tchali. Vous avez suivi les uns et les autres, les compatriotes qui se sont exprimés. Quels commentaires pouvez-vous faire sur les différentes pistes des solutions et propositions?
Pour tous les auditeurs et surtout les intervenants, pour l'intérêt qu'ils apportent à ce secteur porteur. C'est un secteur, je dirais, d'avenir, même d'un avenir proche pour le développement socio-économique du pays. Alors, les différentes interventions, moi, je les classe en deux ou trois catégories. Les premières interventions traitent des questions de transversalité du secteur du tourisme. Mais également, il y a eu une intervention qui a parlé de la nécessité ou non de légiférer dans le secteur. Il a appelé ça agitation. Et le troisième élément, je crois, c'est celui de renforcement des capacités. Alors, parlons de la transversalité. Ça signifie que la transversalité du secteur du tourisme est à la fois sa force et sa faiblesse. Pourquoi? Sa force parce que c'est un secteur qui touche à plusieurs activités de la vie humaine, de telle sorte que si ce secteur avance, les effets induits dans les secteurs sont des effets très, très importants.
Mmh.
Quand le tourisme marche, le secteur du transport va marcher, le secteur de la restauration, le secteur de l'agriculture, le secteur culturel et les différents secteurs vont marcher parce que ces différents secteurs vont bénéficier du mouvement de la population. Parce qu'un touriste, vous le savez d'ailleurs, c'est quelqu'un qui se déplace de son lieu vers un autre lieu. Et ce sont toutes les activités qui sont pendant ce parcours-là qui est le tourisme. Ça, c'est la force de cette transversalité du tourisme. C'est en même temps sa faiblesse. Parce qu'au fait, le ministre du tourisme, c'est-à-dire le secteur du tourisme, ne peut pas développer les autres secteurs transversaux. Il faut une vision partagée du secteur du tourisme pour que les autres secteurs intervenants agissent dans le même sens et ainsi, on va voir effectivement le grand produit du tourisme. Alors, nos auditeurs ont abordé le problème de sécurité. Vous savez très bien que, c'est vrai, qu'il y a la solidarité gouvernementale, mais vous savez que ce sont des activités différentes. Donc, la sécurité est très importante pour le secteur du tourisme. Nous le reconnaissons. Et ce secteur-là, il est aussi important parce que ça traite de la vie humaine. Ça traite de la vie humaine. Mais à ce niveau-là, il y a des éléments importants. C'est la perception qu'on fait et la diffusion qu'on fait du domaine de sécurité. Il est vrai qu'il y a des endroits où la sécurité est peut-être à un niveau très élevé, mais en République démocratique du Congo, comme d'ailleurs tous les autres auditeurs l'ont reconnu, il y a plusieurs sites intéressants dans toutes les provinces. Ça signifie qu'il y a également des endroits où la sécurité n'est pas aussi alarmante que dans d'autres. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, le tourisme peut se développer. La transversalité. D'autres personnes, au niveau de la transversalité, ont parlé des transports. C'est vrai, les voies d'accès aussi, dans le secteur du tourisme, c'est très important. Mais c'est une activité qui n'est pas gérée par le secteur. Voilà également l'importance d'une vision partagée pour le développement du tourisme. Tous les pays du monde qui ont vu leur tourisme avancer ont eu une vision partagée de ce développement parce que l'activité du tourisme est liée à la fois au transport, elle est liée à la sécurité, elle est liée à la culture, elle est liée au comportement des hommes, elle est liée à l'organisation des structures, etc. Donc, c'est le premier problème de transversalité. Je suis d'accord avec nos amis que pour certaines questions de transversalité, il y a un certain handicap qui se pose, mais admettons également qu'il y a des avancées qui se font
oui.
de part et d'autre. Mmh. Donc, alors, le deuxième aspect qui a été soulevé, faut-il légiférer pendant ce temps-ci? Bon, l'auditeur a parlé d'une agitation. Mais c'est ça la force d'un secteur, avoir une garantie légale, un cadre légal du développement du secteur. Vous pouvez avoir tous les investissements du monde. Mais quand le cadre légal est bon ou il est inexistant, aucun secteur ne peut aller de l'avant. Donc, donc la loi est d'une importance capitale pour le développement d'un secteur. Donc, la production de la loi qui porte les principes fondamentaux du secteur du tourisme est une loi importante pour aider le secteur à aller de l'avant. Et je pense que maintenant, comme la loi est sortie il n'y a pas longtemps, il est question de la vulgariser avec toutes les parties prenantes, et on va voir effectivement l'importance de cette loi, parce qu'elle intègre des nouveaux aspects qui n'étaient pas encore développés. Peut-être que nous pourrons organiser une émission particulière autour de la vulgarisation de la loi. Mm-hmm. Alors, le troisième aspect qui a été évoqué par les auditeurs, c'est celui du renforcement des capacités. Nous sommes d'accord avec lui. Nous avons des problèmes de renforcement des capacités dans tous les secteurs de la vie nationale. Mais nous avons également dans les secteurs des expertises. Il faut davantage motiver et aller de l'avant et former des jeunes cadres aussi pour aller de l'avant. Donc, je suis tout à fait d'accord. Et c'est d'ailleurs un acte très important dans l'affaire de Rodrigo, le renforcement des capacités. Et ce renforcement des capacités ne relève pas seulement des administrations. Non, ce renforcement des capacités doit se faire également dans le secteur opérationnel. Parce que, pour vous le dire,
Le tourisme est d'abord l'affaire des privés. Le tourisme, c'est d'abord l'affaire des privés. Le gouvernement, à travers le ministère, doit veiller sur les infrastructures de base et une législation, une planification nationale qui puisse contribuer au développement du secteur. Ah, donc, c'est vraiment important, je crois, qu'on fasse la législation, mais également qu'on renforce les capacités et du tout le monde. Il y a un dernier aspect sur lequel je voulais parler très, très, très rapidement.
Oui, allez-y.
C'est le problème, enfin, de la vision qu'on a eue de la numérisation. Cette réforme-là de la numérisation. Je l'avais dit l'autre fois, d'avril de l'année passée jusqu'à avril de cette année, quand on a introduit seulement la numérisation sur les réseaux aériens internationaux, les recettes de ce secteur-là s'étaient multipliées par 4. Alors que le taux de la redevance à l'époque était de 30 dollars par billet, ce taux avait été rabattu à 15 dollars le billet. Mais le fait de numériser a multiplié durant la même période, avril, fois 4 les recettes qui étaient perçues avec un taux de 30. Donc, ce sont des données, peut-être qu'elles ne sont pas perceptibles par les gens, mais c'est également un aspect de la contribution du secteur dans le développement du pays.
Merci beaucoup. La question de la numérisation, c'est très important. Vous l'avez dit, elle a permis d'augmenter leurs recettes dans la même période fois 4. C'est très bien. On va revenir à vous. Le temps d'écouter Gaylor qui nous appelle de Goma et Sylvain qui est à Bounia. Gaylor, vous êtes avec nous de Goma. Honneur qui vous. Bonjour, Gaylor. Gaylor, bonjour.
Oui. Bonjour, parole aux auditeurs.
On vous écoute.
Je crois que les auditeurs précédents ont parlé, ont touché presque beaucoup de points par rapport au tourisme lié à la sécurité, lié à la réforme et consorts. Mais moi, j'aimerais parler de quelque chose au fait qui me tique depuis un sacré bout de temps. Les Congolais, nous Congolais, sommes devenus experts en matière de judo linguistique. C'est quoi exactement le judo linguistique? C'est-à-dire aujourd'hui on parle des réformes, évidemment on parlera d'assainissement du milieu du secteur lié au tourisme, et le lendemain on parlera d'un autre mot ou bien d'une autre activité portant sur ces secteurs ou bien beaucoup de secteurs à la fois. Mais il y a un manque de volonté, non seulement un manque de volonté, mais un manque d'application de ces textes qui sont régulièrement édités au niveau de nos assemblées, régulièrement au niveau de plusieurs secteurs. Mais moi, je me dis, à qui profite exactement le tourisme? Parce que beaucoup de pays en Afrique, beaucoup de pays dans le monde vivent du tourisme. Le tourisme est devenu, dans beaucoup de pays, une source, une source de développement, une source pécuniaire, en fait, qui rapporte de l'argent dans les trésors publics. Mais chez nous, en RDC, ça profite vraiment pas aux Congolais, nous qui sommes Congolais. Règle 1. De deux aussi, nous voyons que la majorité de nos parcs, la majorité de nos secteurs touristiques sont bradés entre les mains des étrangers. Ce sont parcs ou bien des secteurs touristiques qui nous appartiennent, mais qui curieusement bénéficient aux étrangers. Je vous donne un exemple simple. Un Congolais, par exemple, qui vit à Goma, et les parcs des Virunga ou bien les volcans Niragongo se trouvent à plus ou moins 18 km ou bien 20 km du centre-ville de Goma. Mais demandez à ces Congolais qui vit à Goma, combien de fois a-t-il visité le parc national des Virunga? Le parc national des Virunga, les volcans de Niragongo. Il vous dira que non, il y a de l'insécurité là-bas, je ne peux pas y aller. Et ce sont des étrangers qui viennent de l'extérieur, venant visiter notre parc et venant visiter les volcans à Niragongo. Vous voyagerez par exemple avec un étranger qui vient, par exemple, qui vient de la France, qui vient de la Belgique, et qui vous dit que non, c'est pour la énième fois qui vient visiter les parcs nationaux des Virunga, les volcans de Niragongo. Mais nous nationaux, qui sommes à quelque part à
des touristiques,
vous voyez, donc combien ça fait mal. En fait, je dirais, on doit cesser de parler des mots, des formes, je ne sais pas de quoi, dans le cas d'espèces. En fait, des fois, ça nous frustre. Si nous savons que le tourisme est un secteur qui doit nous apporter de l'argent, et que beaucoup de pays au monde et en Afrique
vivent du tourisme comme source de développement, source de rentabilité. Les gouvernements congolais, bien l'État congolais, doit prendre ses responsabilités.
Merci Guélor. Merci Guélor. Vous avez évoqué, Guélor, un aspect très important, le tourisme national. Nous en avions parlé il y a 2 ans dans cette émission Parole aux auditeurs pour dire qu'il faudrait arriver aujourd'hui à encourager les Congolais à pouvoir visiter leur site, que ce soit dans n'importe quelle province. On a même évoqué la question de la sensibilisation du tourisme scolaire au niveau des écoles, où on pouvait encourager les enfants à visiter des sites touristiques pour qu'on puisse effacer cette vision du tourisme qui ne concerne que deux étrangers. Merci beaucoup Guélor pour cet aspect. Sylvain, merci de nous avoir rejoint. Vous êtes à Bounia. Bonjour Sylvain.
Bonjour, je voudrais saluer l'invité et au même moment saluer tous mes frères congolais.
On vous écoute Sylvain.
Je ne vais pas traîner. Je suis d'accord avec l'invité par rapport à la législation du domaine de l'industrie touristique. Je suis aussi d'accord avec lui sur la numérisation de ce secteur-là. Mais moi je me pose une question simple par rapport à l'organisation matérielle du secteur ou de l'industrie touristique. J'ai comme l'impression que nous sommes pratiquement à l'écart de ce que nous disons. Hein. Que l'invité m'excuse. Pourquoi? Puisque je vais vous donner seulement 2 cas. Monsieur le journaliste, vous avez été peut-être une fois au Rwanda. Prenez la barrière Tchanika. Ça, c'est la barrière qui sépare le Rwanda et l'Ouganda jusqu'à la grande barrière de Goma chez nous. Regardez l'esprit touristique qui est au sein du gouvernement rwandais. Ça veut dire, lorsque vous entrez sur ce tronçon-là, vous avez le goût d'observer un paysage. C'est ça le tourisme. Je vous donne le 2e cas, pour que je m'explique. Le cas de l'Éthiopie. Que vous soyez dans l'air, ou que vous parcouriez les espaces terrestres, ou même la quisse, vous sentez à vous une vision d'esthétique. Donc, vous sentez que les gens ont une pensée, ou une mentalité touristique. Chez nous, c'est quoi? C'est le calvaire de ce que nous observons. Il suffit seulement de venir au Congo. Je ne vais pas rentrer sur ce que les autres auditeurs ont dit, la guerre et tout ça, la mégestion, tout. Mais vous sentez que les Congolais n'ont pas cet esprit touristique, puisque en fait, chaque domaine, c'est un esprit, c'est une vision. J'ai attendu longtemps depuis le début de l'émission que l'invité me parle du plan global de l'industrie touristique au Congo. Je n'ai pas suivi un des éléments. Et j'ai peur que tout ce qu'il dit soit de se payer de bonnes intentions. J'ai vraiment peur. Je le respecte, puisqu'il est du ministère du tourisme. Mais je ne vois pas. Nous sommes à Kinshasa. C'est une ville que j'ai piétine le plus souvent. Mais vous regardez l'état d'esprit du Congolais. Apparemment, aucune vision touristique. Et c'est là où moi je vais poser une question à l'invité. Si réellement nous avons un plan, nous sommes sur le Google, numérisation, oui. Vous tapez une ville, par exemple, Rwanda, vous voyez ça, c'est numérisé. Et vous observez l'aspect touristique. Mais le Congo, est-ce que nous avons un plan? Je me dis même, lui, en tant que un technicien du ministère du tourisme, est-ce qu'il est content de l'état des lieux touristiques dans notre pays? Il dit que la numérisation a augmenté les revenus dans ce domaine. Moi, je doute. Aujourd'hui, la statistique des pays qui, si le plan touristique produisent, nous les connaissons. Alors moi, je vais donner un conseil au ministère. Il faut prendre le temps pour dire aux Congolais une vision touristique pour le Congo. 2035, ça sera quoi? Nous n'avons jamais vu ça. Et donc moi, j'ai trop peur, excusez-moi, mais j'encourage le ministère à pouvoir convaincre le Congolais par la production d'une pensée qui doit être consolidée dans les actions touristiques. C'est que je n'ai jamais vu encore chez nous.
Merci beaucoup Sylvain. Vous aurez aimé voir aujourd'hui au niveau du ministère un plan global du développement de l'industrie touristique, le plan oublié qui doit encourager les Congolais. Cela veut dire que la pensée touristique doit être inculquée au niveau de la population à travers un plan édicté par le ministère. Notre invité pourra nous dire s'il y a aujourd'hui un plan global du développement de l'industrie touristique. Et vous aurez aimé voir cela même sur Internet. La numérisation devrait aussi accompagner ces plans. Ça pourra encourager aussi les Congolais à s'investir dans le secteur touristique. Merci beaucoup Sylvain. Père Xenon, merci d'être avec nous ici à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour Radio Okapi. Je suis très content de participer à cette émission. Je suis content d'entendre parler de tourisme. Nous risquons de nous répéter. Je sens que tous les Congolais sont sensibles au problème. Alors j'allais dire ceci à l'invité qui est là. Je me posais d'abord une question. Est-ce que dans ce pays, il y a une question de priorité ou pas? Ou bien c'est comme on dit, quand nous étions encore petits, ezakali yoto. C'est-à-dire, on s'amuse, mais c'est pas la réalité. Est-ce qu'il y a des priorités? Le tourisme fait-il partie des priorités de la nation congolaise, oui ou non? Alors, le cercle vicieux, c'est quoi? Vous voulez qu'il y ait tourisme, mais il n'y a pas de route. Vous voulez qu'il y ait tourisme, il n'y a pas de sécurité interne et externe. Vous voulez qu'il y ait tourisme, mais on ne respecte pas les gens. Impossible. Allez sur la route de l'Ituri. La route de là est presque bloquée maintenant. On passe pas. Il n'y a pas longtemps, on allait jusqu'à Magui, nous l'avons fait en Landcruiser sans problème. Aujourd'hui, c'est impossible. Il y a même des accidents. Et il y a 23 à 24 barrières sur la route. Il faut payer partout, au vu et au su de l'autorité congolaise. On ne se rend pas compte. Tout est connu. Quand il s'agit d'un problème, je ne sais pas lequel, toute la sécurité est là. Mais des vrais problèmes de tourisme comme ça, personne n'en parle. On ne sait pas circuler. Et dans la ville de Kinshasa, bureau 2. Bureau 2, quelle histoire. Nous sommes nés dans ce pays. J'ai vécu ici à Kinshasa. J'ai circulé comme je voulais, tranquillement. Personne ne pouvait me demander quoi que ce soit. Je suis dans mon pays. Je vais au Canada, je circule tranquillement. Je vais en Belgique et à Rome, je circule tranquillement. On ne m'embête pas, mais dans mon pays, quand tu prends l'avion, tu es en train de circuler partout. Quand tu sais que tu vas déjà atterrir à Kinshasa, le cœur commence à battre à une vitesse qu'aucun médecin ne peut arrêter. Enfin, bref, je voulais dire ceci. Qu'on prenne au sérieux d'abord les Congolais. Qu'on ne blague pas avec eux. Et si on veut que ce pays soit pays, qu'on laisse le bavardage. Le bavardage. Le Congolais aime parler, écrire, écrire. Mais lisez ce que vous écrivez, cliquez. Quand nous on dit qu'il y a la messe le matin, il y en a à 7 heures, la messe est là. Quand on dit qu'on va construire l'église, on construit. Quand on dit qu'on va construire l'école, les enfants vont étudier, ils étudient. Hein? Mais l'État existe. Et si oui, qu'on l'éprouve par des actes concrets. Pas de route, pas de sécurité, il n'y a pas de tourisme, il n'y a rien à faire. Et commencez demain, prouvez-le nous. Qu'on nous laisse avec vos bureaux de là, qu'on circule partout comme on veut, dans la tranquillité dans le pays. Il y a de vrais problèmes ailleurs, béni, hein, partout là-bas. C'est ça le vrai problème.
Merci beaucoup. Merci Père Xeno, merci pour ces précisions. On revient à vous, Jean Kingombe Tiali. Vous avez suivi nos compatriotes. Mais quand on regarde la particularité, il y a Gaylor qui a évoqué la question des nationaux et même qui doivent s'intéresser au secteur touristique. Il y a Sylvain qui aurait aimé voir un plan global du développement de l'industrie touristique publié. Et Père Xeno qui revient sur le concret. Il voudrait voir vraiment que les choses sont... le secteur touristique est considéré aujourd'hui comme une priorité et qu'il y a des actions prioritaires qui sont posées, Jean Kingombe.
Oui, Elamézi, nous continuons à remercier les intervenants, surtout pour leur conseil constructif. Nous avons compris que les intervenants comprennent, comme nous également, que le développement du tourisme dépend de la force de sa transversalité. Et je crois que sur ce point-là, tout le monde s'est mis d'accord.
Oui.
Alors, oui, le deuxième élément, c'est celui du plan national. Je disais donc, fort de la loi qui vient d'être promulguée, l'article, je crois, l'article 14 de cette loi, demande qu'on présente la politique nationale du tourisme. Et je vous informe que le ministre a initié ses travaux, et le ministre a initié ses travaux. On est dans l'élaboration de la politique nationale du tourisme. C'est que c'est un secteur, disons, c'est une activité qui est en train d'être faite. Il y a des collègues, des auditeurs qui ont parlé du concret. Nous sommes d'accord avec eux. Il faut du concret. Mais le concret du tourisme, je le répète, c'est la force de sa transversalité. Le tourisme est essentiellement une activité privée et que l'État a le devoir des infrastructures de base. Donc, nous prenons acte de tout ce qu'ils nous ont donné comme conseil constructif, mais nous disons également que c'est à travers les échanges, c'est-à-dire, c'est ce que vous appelez verbiage, c'est à travers les échanges, c'est à travers les réflexions qu'on monte des plans, les projets et les programmes.
Exact.
Donc tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pas du temps perdu. C'est effectivement une contribution au développement du pays. Mais j'insiste sur le fait de la transversalité du secteur. Revenons à la numérisation. Effectivement, la numérisation ne va pas se limiter seulement sur ce que nous disons là, les recettes budgétaires. Non, la numérisation doit aller au-delà. C'est pour cette raison que même parlant de la loi,
on doit arriver jusqu'au cadastre touristique. Donc, tous les éléments que les auditeurs amontent sont des éléments fondés parce qu'en fin de compte, il y a une très belle analyse qui avait été faite sur le développement du secteur par la Banque mondiale. Et il y a des pays pré-émergents et d'autres pays. Donc, c'est par étapes qu'on y va. C'est vrai, nous avons des richesses touristiques. Mais nous reconnaissons nous tous que nous avons encore des difficultés infrastructurelles, c'est tout à fait normal. Et il faut maintenant commencer à aller de l'avant. Donc, ce qui est fait maintenant, c'est dans ce sens-là d'investir pour aller de l'avant. On reforme l'administration, c'est pour aller de l'avant. On parle de la numérisation, c'est pour aller de l'avant. On produit des lois, c'est pour aller de l'avant. On essaie d'organiser le secteur, échanger avec les partenaires du secteur, c'est pour aller de l'avant. Mais nous disons également une sensibilisation vis-à-vis des autorités politiques, vis-à-vis des opérateurs économiques, vis-à-vis des investisseurs. Ce sont des éléments qui vont contribuer à faire avancer le pays. Donc, nous remercions tous ceux qui ont apporté des éléments constructifs, mais nous disons que, au fur et à mesure qu'on va appliquer la loi qui est sortie, et que les intervenants prendront conscience de ça, je crois que nous allons aller d'avant, étant donné d'ailleurs que cette même loi-là prévoit qu'on privilégie l'écotourisme pour revenir à ce qu'un auditeur a dit sur, les bénéfices que tireraient les communautés locales ou les communautés riveraines du développement du tourisme. Donc, nous pensons que c'est une voie vers laquelle nous allons. Tenons-nous la main dans la main, chacun dans son secteur, pour que nous puissions aller de l'avant et que ce secteur puisse être effectivement un secteur très important pour la République démocratique du Congo, et que chacun, dans la sphère d'action qu'il agit selon l'esprit de cette loi et selon la planification qui sera faite. C'est dans ce sens-là. Je crois que c'est vrai, nous pouvons nous rejeter la balle, c'est vrai. Mais si chacun, si c'est un opérateur économique, lit très bien cette loi, s'investit, va vers l'innovation, on va de l'avant. Si les opérateurs politiques font la même chose, on va vers l'avant. Si les associations du secteur font la même chose, nous allons vers l'avant. Donc, c'est justement ce que je disais là. C'est ça la force de ce secteur. C'est un secteur qui regroupe tout le monde pour une même vision pour le développement socio-économique du pays. Donc, je suis vraiment content que le peuple congolais ait pris conscience vraiment de l'importance de ce secteur, quitte à chacun d'agir dans ce sens. Et je l'ai dit, il faut une vision partagée du développement du tourisme.
On va revenir, oui. On revient à vous pour conclure cette émission. Le temps d'écouter un dernier auditeur qui nous appelle de Kikwit. Abdoulaye, merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, monsieur le journaliste, on doit savoir que le tourisme, ce secteur-là, a développé plusieurs pays dans le monde. Je me pose la question, pourquoi pas notre pays? Vous savez bien que développer le tourisme demande les infrastructures et la sécurité. Mais dans notre pays, il se pose un problème d'infrastructure et de sécurité. Comment voulez-vous que les gens quittent leur pays pour venir dans un pays où ils ont beaucoup de chances de ne pas revenir en vie, revenir en cadavre? Je vais demander au ministère de continuer son travail, mais de faire en sorte que la paix puisse régner dans notre pays. Car sans climat de paix, on ne peut pas parler de tourisme.
Merci beaucoup, Abdoulaye. Vous êtes revenu sur la question de la paix. On revient à vous, Monsieur Kingombe Tialijan. Tout à l'heure, notre ami Gaylord de Goma insistait sur l'aspect national du tourisme, en disant qu'il est rare aujourd'hui de voir les Congolais eux-mêmes aussi qui s'engagent à aller visiter. Il y a 2 ans, nous avons fait le débat autour de cette question où on estimait qu'il fallait encourager au niveau des écoles, par exemple. Mais à qui revient cette responsabilité du côté sensibilisation, du côté initiative qui doivent stimuler les nationaux à pouvoir s'investir dans les secteurs touristiques, pas seulement croire que cela est réservé aux seuls étrangers?
Oui, et la Belgique, c'est important parce que le tourisme, il est à la fois interne, et externe. Les auditeurs ont raison, on doit également développer le tourisme interne. Et je vous dis sincèrement que le développement du tourisme interne dans toutes les nations marche avec le développement d'une classe moyenne. C'est très important. Donc, en même temps qu'au niveau économique et social, on aura une classe moyenne, en même temps que se développera le tourisme interne. Et il faut avouer également que dans certains pays, le tourisme interne apporte un peu plus.
Donc, nous pensons qu'on doit développer les deux axes, le tourisme externe et le tourisme interne. Mais en fait, il concerne le tourisme scolaire et tout le reste. Vous savez que il y a un programme qui était déjà initié à l'époque, hein, du tourisme scolaire. Et donc, le coup de poing, pas le coup de poing, mais la pulsion doit venir effectivement et de l'État et des privés. Je le dis, le tourisme, c'est d'abord une activité des privés. Donc, il faut également que dans ce secteur-là, il y ait des gens qui réalisent qu'ils peuvent faire des affaires en investissant dans le tourisme. Ce n'est pas seulement une action caritative, le tourisme. C'est une industrie, comme on le dit. Donc, les investisseurs, les partenaires ont intérêt à s'impliquer dans ce sens parce que pour en faire effectivement des affaires et afin que, à la fois, on résorbe le chômage à travers les emplois qu'ils ont pris, mais également les populations riveraines qui sont autour des sites qui sont développés, bénéficier des dividendes qui tomberont de ces différentes visites ou des activités de développement qui vont se faire dans les sites, que ce soit le développement de l'énergie verte, que ce soit d'autres développements, qui puissent bénéficier à ces environnements-là. Donc, en bref, je dis qu'il faut développer le tourisme interne et le tourisme externe, mais je suis pour le fait de dire que le tourisme est d'abord l'affaire des privés. Les investisseurs, les partenaires doivent comprendre qu'ils peuvent investir là-dedans et avoir des affaires. En même temps, le pouvoir public va organiser les infrastructures de base, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et pour le moment, je dis, nous avons des bases sur lesquelles nous pouvons partir. La loi élabore toutes ces idées-là et je crois que la vulgarisation de cette loi va faire en sorte que beaucoup d'autres personnes puissent intervenir et que le cadre de concertation qui peut être initié par l'autorité à ce sujet permettra d'avoir, ce que je dis, une vision partagée du développement du tourisme. Il faut absolument que l'opérateur étatique, politique, l'opérateur privé ait tous une vision partagée du développement du tourisme, parce que le tourisme est une industrie. Vous investissez, vous allez avoir vous allez avoir de l'argent, mais également vous résorbez le chômage et vous contribuez au développement social de la population.
Et pour terminer, parce que dans votre secteur d'activité, vous êtes chargé exactement d'investissement, quel est l'aspect, la courbe aujourd'hui de sollicitations d'investissement dans les secteurs touristiques dans notre pays? En bref, pour conclure, est-ce qu'il y a-t-il aujourd'hui une forte demande ou bien les choses évoluent quand même d'une manière assez encourageante?
Bon, je dis assez encourageante, mais timide, hein. Vous voyez, nous avons dit transversalité, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent pour que les investisseurs, en tout cas, affluent dans le secteur. Donc, vous avez vu quand les mines ont explosé, vous avez vu comment les gens se sont rués sur la République démocratique du Congo. La nouvelle mine, c'est le tourisme, et nous pensons que les investisseurs dans ce secteur-là vont se ruer également là, à condition qu'il y ait certains préalables qui ont été évoqués par les éditeurs, et pour lesquels, d'ailleurs, l'autorité de tutelle est très vraiment consciente et agit dans ce sens-là pour que la vision soit partagée et que ce secteur qui aille de l'avant.
Mais Jean Kingombe, pour terminer, vous avez parlé de la transversalité plusieurs fois, vous avez évoqué. Mais est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il un cadre des concertations qui réunit certains ministères qui entrent en ligne des comptes de cette question du tourisme aujourd'hui?
Bon, il y a effectivement ce qui se fait au niveau gouvernemental, ce qui se fait au niveau des commissions. Dans la politique nationale qui est en élaboration, nous vous l'avons dit, au regard de la loi que nous venons d'avoir il y a quelques mois, on devra arriver à la mise en œuvre de la politique nationale, on devra arriver à un cadre de concertation pourra être fixé par les parties prenantes, hein, parce que la philosophie du ministère pour le moment, c'est de travailler avec les partenaires.
Merci.
Ils se fixeront ensemble comment ils devront agir.
Merci.
Pour que ce cadre-là soit formalisé.
Merci. Merci beaucoup, Jean Kingombe Tchali. Vous êtes directeur chef des services de promotion des investissements touristiques au secrétariat général du tourisme. Merci de nous avoir accordé de votre temps pour cet échange dans parole aux auditeurs. Et nous disons aussi merci à toute l'équipe de production. Jir Lungembo était à la coordination et la réalisation. Alain Goy était à la mise en onde. Pierrot et la Mégie a eu tout le plaisir de vous présenter ce magazine qu'on va retrouver sur www.radiocapi.net. On vous souhaite bien de bonnes choses. On se retrouve le lundi pour de nouveaux numéros des paroles aux auditeurs. Merci. Au revoir. Portez-vous bien chez vous.